Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour tout le monde.
On évoque parfois dans Asialogie, mais on n'y est jamais rentré. Didier, alors aujourd'hui, pour la première fois, nous partons visiter la cité interdite de Pékin.
Très bien.
Et on va tenter d'en imaginer un petit peu la vie avant qu'elle ne devienne un musée.
Ah.
Et cela, il y a tout juste 100 ans. On fête encore un anniversaire dans Asialogie.
Bon anniversaire à la cité interdite.
Tout à fait. Et en deuxième partie d'émission, Didier, tu vas nous faire sourire avec nostalgie. On fête aussi un autre anniversaire, les 50 ans d'une icône de la pop culture, c'est Goldorak.
Ouais, ça me parle aussi.
Ça te parle aussi,
alors,
ça m'étonne pas.
Qu'on arrive à Goldorak, j'aimerais bien que tu nous expliques, bon, même si je peux comprendre un peu, mais tout de même un peu plus, le concept de cité interdite. Qu'avait-elle d'interdite, cette cité? Et du coup, pourquoi?
Oui, c'est un vrai concept, Didier. La cité interdite, c'est pas seulement le nom d'un palais, c'est une idée politique, sociale et cosmologique essentielle dans l'histoire de la Chine.
Rien que ça.
Alors c'est un concept complexe, oui tout à fait, que j'ai tenté d'éclaircir pour vous, chères auditrices et auditeurs de Radio Alpa. Alors pour faire court, la cité interdite, c'est la transposition terrestre du palais céleste pourpre, à savoir le ciel, dont le principe fondamental, ce qui est en bas reflète ce qui est en haut.
Okay.
Et ça symbolise l'unité du ciel, de la terre et de l'homme.
Tout de même.
Tout de même. Alors tout cela pour signifier que l'empereur réside au centre de l'univers terrestre, comme l'étoile polaire réside au centre du cosmos.
D'accord.
Et que ça signifie aussi que la présence de l'empereur garantit l'ordre du monde dans la cité interdite.
Ça fait beaucoup tout ça.
Et oui, alors, ça fait beaucoup de choses. C'est un concept.
Ouais, j'imagine bien. Pourquoi la couleur pourpre? Est-ce que parce que les murs du palais sont peints en pourpre? C'est quoi?
Oui, alors ça interroge toujours et j'avoue que j'ai peut-être pas tout compris. Alors je dirais oui et non.
Ouais.
Alors il est vrai que la couleur de la cité interdite de Pékin est plutôt d'une couleur rouge brique, presque dire pourpre.
Sympa.
Mais la raison est d'abord symbolique.
Ah.
Alors en chinois, la cité interdite se dit Ji. Jin Cheng, ce que l'on traduit par la cité sacrée interdite située sous l'étoile pourpre.
D'accord, ah oui.
Tout ça. Alors, Ji, ça veut dire pourpre, Jin, sacré ou interdit, et
d'accord.
Cheng, cité fortifiée.
Okay.
Alors, le violet ou le pourpre, c'est la couleur sacrée qui renvoie donc à l'étoile polaire, qu'on appelle aussi l'étoile pourpre, en français aussi. Hein,
je comprends mieux, là.
Et qui, symboliquement, se trouve au centre de la voûte céleste. En tout cas, pour les anciens, c'est comme ça qu'ils la voyaient.
Mm-hmm.
Et pour les anciens chinois, elle représentait le pivot du ciel autour duquel tournaient toutes les autres constellations. Alors, elle est donc l'image du pouvoir central, immobile, éternel, le pouvoir du Fils du ciel.
Ah oui, tout un programme quand même.
Voilà, et le violet ou le pourpre, c'est aussi la couleur du nord et celle de l'un des cinq éléments, l'eau. Alors, la cité interdite se situe donc toujours au nord de la capitale,
d'accord.
La position du souverain.
Mmh.
Et le pourpre est aussi la couleur de la chance et du destin bénéfique. En résumé, le violet pourpre signifie la présence cosmique, la légitimité divine et aussi un bon augure.
D'accord. Bon, là, on en sait plus sur le pourpre, je comprends un peu mieux. Mais pourquoi interdite? Qu'est-ce qu'elle avait d'interdite, en fait? Et d'interdit?
Oui, alors il est important de préciser qu'il y a eu plusieurs cités interdites avec des règles différentes selon les époques.
D'accord.
Alors je vais donc m'en tenir à l'époque de la dynastie Ming de 1368 à 1644 et qui a officialisé le terme de cité interdite.
Ok.
Avant on disait cité fortifiée, cité sacrée, etc.
D'accord.
Mais cité interdite c'était pour le palais impérial de Pékin.
Okay.
Alors pourquoi interdite? Eh bien parce que le palais et son enceinte étaient strictement réservés à l'empereur et interdits aux sujets ordinaires.
Oui, je me doutais un peu qu'il y avait un truc comme ça.
Voilà, elle était non seulement verrouillée par des portes, mais aussi et surtout par des règles rituelles et les fameux gardes eunuques.
Mmh.
Alors cette cité était protégée magiquement et juridiquement est conçu comme un espace sacré inviolable où l'ordre du monde devait rester intact.
D'accord.
Cet interdit, bah, ça crée un aura de mystère aussi, et pour renforcer l'idée que l'empereur était un être séparé du monde ordinaire.
Mmh.
Alors, oui, ça a peut-être à voir avec la présence des femmes, mais pas seulement. C'était
d'accord.
Parce que l'empereur était un être extraordinaire.
Okay.
Alors c'était bien sûr aussi, plus prosaïquement, une ville en miniature, à la fois résidence, centre administratif, et aussi un temple avec une conception basée sur le feng shui.
Ah d'accord. Et alors, tu veux... Explique-nous un petit peu en quoi consistent justement ces règles du feng shui.
Alors le feng shui, ben, c'est la géomancie en français.
Ouais.
On en avait déjà un petit peu parlé
oui,
dans une autre
vrai.
Émission. Donc c'est la science traditionnelle de la géographie sacrée,
d'accord.
utilisée entre autres pour bâtir les capitales impériales et garantir la stabilité de l'empire. Et la cité interdite en est le pur exemple, et dont tout le monde peut s'inspirer d'ailleurs.
D'accord.
Alors la cité interdite est construite selon un axe nord-sud exact,
mmh.
avec le nord terrestre qui représente l'obscurité et les menaces. Alors les menaces, c'était les barbares venus du nord, les Mongols par exemple,
oui.
et les Mandchous à l'époque.
Mmh.
Et l'empereur était donc assis au nord, faisant face au sud comme un symbole d'autorité bienveillante,
d'accord.
éclairant le peuple. Alors le feng shui exige aussi une protection naturelle au nord qu'on appelle la tortue noire. Et à Pékin, bah, c'est la colline de charbon. Elle s'appelle comme ça. C'est une colline artificielle faite avec la terre qui a été évacuée quand on a creusé les fossés du
okay.
palais.
D'accord.
Alors c'est une grosse colline. Hein. Il
ah oui,
faut dire que les fossés sont
fossés.
Grands. Voilà, voilà, c'est ça.
Okay.
Et puis bah, au sud, devant la cité, il y a un grand espace
ouais.
ouvert. C'est le phénix rouge, une esplanade dégagée qui permet au chi, à l'esprit, à l'énergie,
ouais.
hein, dont nous avait parlé Guy Masson,
oui, c'est pas mieux,
de
c'est,
circuler
oui.
pour favoriser la prospérité. À l'est, bien, c'est l'espace du dragon bleu qui mmh. accueille les bâtiments liés au pouvoir. Et à l'ouest, l'espace du tigre blanc pour les espaces résidentiels, le tout étant dans une symétrie totale.
D'accord.
Donc la représentation de ces animaux-là a vraiment une signification symbolique importante.
Okay.
Alors le feng shui, il existe aussi la présence d'eau pour faire circuler l'énergie. Et c'est pourquoi il y a un grand fossé rempli d'eau. Ouh, excusez-moi.
Ouais.
Tout
ça,
autour, oui, c'est...
Autour de la cité.
Autour de la cité, tout à fait, Didier. Okay. Il y a aussi une hiérarchie architecturale stricte.
Oui.
Les bâtiments importants sont alignés sur l'axe central. En fait, on ne les voit pas forcément quand on est face.
Oui.
On les découvre au fur et à mesure qu'on avance. Et ils sont toujours en nombre impair, de 3, de 5 ou de 7.
D'accord.
Des nombres qui sont des nombres yang favorables.
Okay.
Voilà, et les toits jaunes, bah, c'est la couleur de l'empereur.
Ouais.
Bon, je vous propose, bah, pour digérer un petit peu tout ça quand même,
ouais.
hein, la cosmologie, oh là là, c'est dur,
ouais.
chinoise, c'est pas si simple.
Non, c'est vrai.
Voilà, bon, on va écouter Andy Lai, ça c'est plus simple,
oui.
c'est
bien
chinois,
agréable,
et
regarde.
C'est un jeune chanteur
écoutez.
Chinois
okay.
sympa.
Alors, écoutons ce
Andy
jeune
Lai.
Chanteur.
来电你说再聚学得猖狂，道歉面试紧抱我，陪伴到天光再讲，很感激像我但愿意，昨晚是你打错，帮他安慰你难过，然后无端打给了我。 或是我有志，深深过一千次，还相信可以跟他再比试，无止境下去。若当我是代替品，还清脆变放肆，或是我有志，守好朋友名义，我甘心当个自由半相依，又怎会有别个似我爱得多不知？ 随后每晚睡觉也不安宁，盼你又来俘虏我，如梦里温馨场景。苦苦等待你在何时喝醉又再补错，定。 定太摸爱这样重播，唯独怕被你封锁，或是我幼稚，心伤过一千次，还相信可以跟他再比试，无止境下去，若当我是代替品，还请随便放肆。
Voilà, ça nous a permis de reprendre un petit peu notre souffle pour repartir donc sur Asialogie et cette soirée après-midi pardon, pour parler de la cité interdite.
Pour la visiter, Didier.
Oui, enfin, on en parle un tout petit peu quand même. Et à quoi est liée donc l'organisation de ces bâtiments en hanté restés là ?
Oui, alors il y a trois parties de construction dans la cité interdite. Il y a la cour extérieure pour la politique, la cour intérieure pour les résidences, ouais, et les jardins avec les pavillons privés pour l'empereur et sa cour. Alors tout ça avec des accès strictement contrôlés.
D'accord.
Alors il faut savoir que les ministres et les fonctionnaires vivaient tous à l'extérieur et avaient accès seulement à certaines salles de la cour extérieure.
Ah oui.
Et prenaient les eunuques comme intermédiaires pour communiquer avec les résidents de la cour intérieure.
D'accord.
Alors pour ce qui concernait les femmes de la cour, elles étaient sous surveillance permanente, on s'en doute. Et on en reparlera une prochaine fois de tout ça.
Okay.
Alors c'était une ville autonome à l'intérieur de la ville, avec ses rues, ses pavillons administratifs, ses salles de trône, des temples, des jardins, des ateliers, des logements. C'était également un espace rituel. Bah, en effet, dans la cité interdite, elle servait également de sanctuaire aux ancêtres et était le théâtre de toutes les cérémonies, mm-hmm, les investitures, le nouvel an, la fête des récoltes.
Ouais.
Voilà, toutes les cérémonies se passaient dans l'espace extérieur ou, mmh, intérieur selon la cérémonie.
D'accord.
Et chaque bâtiment principal portait un nom symbolique, alors l'harmonie suprême, la pureté céleste,
oui,
l'harmonie préservée, etc.
Mmh.
Tout ça pour exprimer la grandeur morale et la droiture que l'empereur devait incarner, Didier.
D'accord. Bon. Et alors, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs cités interdites. Alors là, j'ai pas bien compris pourquoi il y a plusieurs cités interdites.
Oui, il y en a eu beaucoup.
Ah.
Alors, une des premières raisons, c'est le changement de dynastie. Quand une dynastie succédait à une autre, elle voulait souvent établir son propre palais pour s'éloigner symboliquement de la précédente et pour se conformer à ses propres traditions culturelles. Ils n'avaient pas forcément les mêmes origines.
Ouais, bien sûr.
Alors, chaque dynastie majeure, je vais vous les citer rapidement, les Han, les Tang, les Song, les Yuan, les Ming et les Qing, il n'y a pas eu tant de dynasties que ça récemment.
D'accord.
Enfin récemment, ça remonte déjà à des siècles et siècles, a donc eu son palais impérial interdit, même si c'est celui des Ming, puis celui des Qing à Pékin qui est devenu le plus célèbre.
Uh-huh.
C'est la cité interdite qu'on connaît aujourd'hui.
Bien sûr, d'accord.
Alors la première cité date de la dynastie Zhou. Ça, on s'en souvient, c'est l'époque de Confucius.
Ok.
1046 avant Jésus-Christ.
Mm-hmm.
Ça fait donc 3500 ans.
Oui,
c'est
ça fait, oui.
Jusqu'à moins 256 avant Jésus-Christ. Elle a duré très longtemps, la dynastie Zhou. Elle était située près de Xian, dans le nord.
Mmh.
Le nord de la Chine. La deuxième, c'est celle de la dynastie Qin, le fameux empereur Qin Huangdi, de moins 221 à moins 206, dynastie très courte, mais qui a laissé beaucoup de traces.
Une trace, oui, bien sûr.
Et puis il y a eu ensuite celui de la dynastie Han à Shanghan, le plus grand palais de l'antiquité chinoise.
D'accord.
Alors les dynasties et les palais se sont ainsi succédés jusqu'au XXe siècle avec la dynastie Qing, la dernière, qui a conservé et transformé la cité interdite des Ming, et c'est celle que l'on connaît aujourd'hui.
D'accord.
Et il y en a eu environ 23 au total, qui sont presque toutes disparues ou en ruine.
D'accord. Et alors, pourquoi, en fait, quelles sont les autres raisons par rapport à tout ça ?
Oui, il n'y a pas que le changement de dynastie,
il
y a d'autres raisons. Il y a des raisons stratégiques de défense, des raisons économiques.
D'accord, oui.
Et à cause aussi de la survenue des catastrophes naturelles. On est dans une zone quand même sismique, donc des tremblements de terre, des inondations. Et beaucoup de cités ont aussi été détruites à cause des guerres.
Hein, forcément.
Ou par des incendies, c'était très fréquent, c'était un vrai fléau pour les cités interdites qui étaient construites en bois la plupart du temps.
Ça aide pas.
Alors, les dynasties reconstruisaient un nouveau palais. C'était plus facile de recommencer que de restaurer un palais brûlé ou détruit par un tremblement de terre. Alors, construire une nouvelle cité, c'était aussi une manière de refonder l'ordre politique.
Tout à fait. Marquer et puis, sa trace, tout ça.
Voilà, et la population grandissait, les besoins devenaient plus grands, les palais devenaient trop petits et mal adaptés aux administrations de plus en plus importantes.
D'accord.
Voilà pourquoi, Didier.
Ok. Donc, cette année, on fête l'anniversaire de la cité interdite de Pékin, devenue un musée, l'un des monuments, les plus visités du monde.
Oui, tout à fait, Didier. La cité interdite est devenue un musée depuis le 10 octobre 1925. Donc
ouais,
voilà, 100
d'accord.
ans et quelques.
Écoute,
100 ans et un mois et demi.
Oui, oui.
Après 500 ans de souveraineté impériale dans cette propre cité-là, hein, je parle de celle de Pékin.
Bien sûr.
Alors, à la fin de la monarchie en 1911, son statut sacré va disparaître évidemment, mais elle demeure toujours le symbole mondial de la civilisation chinoise. Elle est aujourd'hui un trésor architectural et un centre de conservation majeur.
D'accord.
Le musée a été créé très vite pour préserver et exposer le patrimoine impérial. Mais en 1933, l'invasion japonaise va pousser le gouvernement chinois de l'époque à évacuer plus de 20 000 caisses d'œuvres d'art vers le sud de la Chine pour les protéger. Et puis une partie de ces collections finira plus tard à Taipei, au merveilleux musée national du palais.
D'accord.
À Taïwan, donc.
Okay.
Et puis, pendant la guerre civile chinoise, le musée avait continué quand même à fonctionner, mais partiellement. Bon, il faut savoir qu'à l'arrivée de Mao au pouvoir en 1949, le palais a été restauré et ouvert au public international. Il faut
d'accord.
le savoir, quand même.
Oui, j'aurais pas cru.
Exactement, on n'aurait pas cru, mais c'est quand même la réalité.
Okay.
Et pour ces 100 ans, depuis 1987, la cité interdite est classée patrimoine mondial de l'UNESCO.
Oui.
Et pour ces 100 ans, le musée a eu droit à l'installation d'expositions grandioses qui sont visibles jusqu'à fin décembre 2025.
D'accord.
Malheureusement, il faut se presser.
Il va falloir y aller rapidement. Là.
Voilà. Et il y a un projet d'une nouvelle branche du musée qui est en cours à Pékin avec une surface d'exposition très grande, 33 000 mètres carrés.
Oui, comme tu dis.
Mais oui, il y a tellement de choses là-dedans.
D'accord.
Et on va pouvoir exposer encore plus d'objets, voilà. Donc la suite, ce sera pour bientôt dans une autre émission, Didier.
Très bien. Alors,
ce sera la vie dans la cité interdite.
Ok, alors on verra ça une prochaine fois.
Bon, on va changer tout à fait de registre
Didier.
Tu nous as proposé une pause musicale qu'on va écouter avec beaucoup d'attention et de plaisir.
En fait, une pause, je crois, qui s'impose.
De l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger, l'ennemi héréditaire veut nous écraser, l'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains, viens défendre notre terre de justice et d'amour. Sauver la liberté de notre planète, c'est la seule vérité.
Bon Didier, c'était la bande originale de dessin animé Goldorak, c'est ça la chanson générique.
C'est la chanson, oui. Alors elle a été même là, c'est un réenregistrement justement par rapport à l'anniversaire dont on va parler.
Ah oui, et comment il s'appelle le chanteur?
Oula, attends,
je crois que c'est Henrique, non?
Ouais,
Henrique.
J'ai plus en tête là. Là, tu me poses une colle en direct.
Ça. Je crois que c'est Henrique.
Ouais, je l'ai plus en tête. Je l'ai préparé, mais pas aujourd'hui, donc je l'ai plus en tête.
Mais c'est la chanson donc remasterisée ou réenregistrée pour les 50 ans.
Voilà.
D'accord. Alors, rappelle-nous un petit peu ce qu'est Goldorak et puis son histoire aussi, parce que tout le monde ne le connaît pas. Il y a des gens jeunes qui écoutent Radio Alpa et qui connaissent peut-être
pas l'histoire.
Et qu'on va
pouvoir leur faire découvrir.
Voilà.
Tout à fait. Donc, Goldorak, c'est une série japonaise créée par Gonagai, maître du genre Mecha. Les histoires de science-fiction et de robots géants, jusque-là, je pense que ça parle à tout le monde. Elle fait partie de la saga des Mazinger, mais avec une histoire d'un héros et un robot totalement nouveau. En fait, cette série de 74 épisodes, produits par la Toei Animation, a été diffusée pour la première fois le 5 octobre 1975, et ça jusqu'au 27 février 1977.
Oui, alors, petit résumé. Fait un petit résumé, oui.
Oui, l'histoire commence avec l'impératrice du grand stratégère, Vega, qui envahit des planètes pour les transformer en colonies minières ou militaires. Le héros, donc Actarus, c'est le prince de la planète Euphor que Vega va détruire. Mais Actarus va parvenir à s'échapper dans le robot le plus perfectionné jamais construit, Goldorak. Appelé Grenzdienzer en japonais, Actarus va se réfugier sur la Terre et sera accueilli par le professeur Procyon, directeur d'un centre de recherche partial, et va vivre incognito jusqu'à l'arrivée des Golgoths et les forces de Vega.
Les fameux Golgoths.
Voilà.
Alors j'imagine que l'histoire est loin d'être finie, mais alors quel message nous transmet l'histoire d'Actarus ?
Alors,
des messages, j'imagine.
Oui, oui, oui. Il y aura bien des rebondissements, car Vega va finir par découvrir que Goldorak est sur Terre. Actarus va reprendre alors les commandes du robot pour défendre la planète Terre, avec l'espoir de rentrer chez lui un jour. C'est une série un petit peu sombre, dramatique et humaniste, qui nous parle de la guerre, d'exil et d'errance, d'injustice, d'écologie et de la quête de la paix. Goldorak, c'était aussi des personnages complexes, hein, de durs combattants de robots, avec des explosions, des armes inconnues, des fulgures au point,
les cornes aux fulgures.
Ça va parler à certaines personnes. Par exemple, on n'avait encore jamais vu ça en France, en fait.
Ah oui, c'est vrai, on n'avait jamais vu ça. Alors raconte-nous justement l'arrivée de Goldorak en France, Didier. Il est devenu rapidement très populaire.
Extrêmement populaire. Oui, l'arrivée de Goldorak sur les écrans de TV, enfin de télé, ça a été tout de suite un phénomène culturel. Il a été diffusé pour la première fois donc chez nous le 3 juillet 1978 dans Récréa 2, ça va peut-être parler à certains.
Oui.
Et ce dessin animé a été un tournant à la télévision française. On peut même parler d'une révolution. En effet, en 1978, les enfants n'avaient encore jamais vu de robots géants en action, car seuls les dessins animés français et américains étaient diffusés. Et le moins qu'on puisse dire, que c'était plutôt classique, quoi. Le choc esthétique et narratif a été énorme.
Très politiquement
et
correct.
Son succès aussi, en fait. Goldorak est devenu le numéro 1 des héros des enfants et le premier grand phénomène otaku français est l'un des symboles de la génération des 70-80, quoi.
Bah oui, c'est une icône, Didier, c'est
clairement
vrai. Alors combien y avait-il ? Il y a eu beaucoup de polémiques, en fait, et d'inquiétudes à l'époque, à sa sortie sur nos écrans.
Bien sûr.
Il y a eu même des tentatives de censure.
Bah oui, c'était nouveau, ça changeait. Donc, dès 1979, on peut dire que Goldorak a été diabolisé par certains responsables politiques et par certains médias qui accusaient la série d'être violente. Un petit rappel de ce que la télévision offrait aux enfants en 78.
Oui, il y avait quoi ?
Encore « Bonne nuit, les petites ». Je me souviens que j'avais le droit à ça avant d'aller me coucher, donc c'est sûr que ça n'a rien à voir.
Très longtemps, hein.
Voilà. Les Barba Papa, les Fous du Volant, les Walt Disney et des émissions éducatives. Forcément, on est
C'était
loin de Goldorak.
C'était très gentil, tout ça, oui.
À l'époque, la culture japonaise était très peu connue. Hein. Et pour les adultes de l'époque, Goldorak ne ressemblait à rien de ce qu'on connaissait. Ce qui a provoqué de la suspicion et du rejet. Il a même été accusé de violences psychologiques faites aux enfants. Attention,
oui.
Alors, des associations de parents ont même écrit à Antenne 2, parce qu'on disait Antenne 2 à l'époque,
oui.
Pour dénoncer l'invasion de programmes étrangers qui pervertissaient la jeunesse. Oui, oui.
C'est horrible.
Atteignaient la morale et rendaient les enfants agressifs. En réalité, Goldorak n'était pas plus violent qu'un conte classique, si on y réfléchit un petit peu. Hein.
Oui, parce que le petit pousset, le petit
chaperon
rouge...
Si on regarde ça de près,
la belle
finalement,
au bois dormant,
c'est pas si simple. Quoi.
C'est pas les thématiques d'asiologie, mais on pourrait en dire beaucoup de choses des contes de fées.
C'est ça.
Alors, malgré les critiques, il a été rediffusé et a ouvert la porte au manga, Didier.
Clairement.
Hein, c'est ce qu'on dit de Goldorak.
Tout à fait, la série est diffusée et rediffusée régulièrement, tant elle a eu du succès. Goldorak était captivant, addictif pour les enfants, car ce n'était pas un épisode isolé, c'était une série à suivre. Ils voulaient voir tous les épisodes. Il faut savoir que les enfants français ont plus aimé Goldorak que les enfants japonais. C'était leur premier robot avec Actarus et un vrai héros mature, très intelligent, humaniste, avec en plus les voix, la musique, les génériques devenus cultes. Goldorak n'a pas eu de rival tout de suite. Il était incontournable et son message résonne encore aujourd'hui.
Alors qu'est-ce qu'il nous a laissé comme héritage Goldorak, Didier ?
Alors, on peut dire qu'il a été le premier ambassadeur de la culture japonaise en France, ça c'est indéniable, et que le portail vers les mangas et l'animation japonaise.
Oui, c'était un...
C'est ça.
Un ambassadeur, on
tout
peut
à fait,
dire.
Tout à fait, totalement. Il est devenu une icône de la pop culture, dont l'image a été déclinée sous toutes les formes, BD, concerts, éditions, DVD, figurines, avec des rééditions collector sorties en octobre 2025 pour ses 50 ans.
Eh oui, 50 ans.
Eh oui, happy birthday. Notamment celle de chez Isan Manga, 384 pages avec 200 pages inédites et des dossiers, le tout en deux versions, la française et celle avec les noms originaux en japonais. Une figurine spéciale de 60 cm
wow.
Metallic Touch, 50e anniversaire, a été mise sur le marché cette année. Dans une boîte spéciale, édition commémorative, elle coûte 200 euros environ quand même. Et on la trouve encore, s'il y a des amateurs.
Alors, bah, nous, c'est au Mans, un bel objet en plus, quand même.
Oui, bien sûr. Et puis nous, au Mans, on sait aussi, pour ceux qui sont amateurs de BD, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, avec la librairie Bulle, il y avait eu un gros événement parce qu'il y a des Français qui se sont aussi attaqués à l'histoire avec l'autorisation de Goldorak qui ont fait une très belle BD
donc,
pardon, que j'ai apprécié. Oui, oui, voilà. Enfin, je peux
un
pas trop en dire.
Il faut
la lire. Et c'est de la très très belle qualité. Et nos petits Français, je trouve, ont fait quelque chose de très très bien. C'est à se procurer. Je pense qu'on la trouve encore sans problème. C'est bientôt Noël pour
Mais
ceux
oui.
qui aiment ça, qui ont envie de se replonger dans leurs années 80, voire un peu plus tard pour certains qui l'ont découvert bien après. Eh bien, c'est un petit cadeau sympa. Je pense.
Bah,
en tout cas, moi,
Didier.
Je me la suis offerte à l'époque. Elle est encore dans ma bibliothèque et j'apprécie.
Bon, Didier,
oui.
C'est fini, tu sais, Asialogie. Bon, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre page Facebook,
oui.
nous réécouter le samedi matin à
voilà.
9h30, le mercredi à 13h. Et bien sûr aussi en podcast sur radioalpa.com.
D'accord.
À la semaine prochaine pour de
prochaine.
Nouvelles aventures.
Bonne
Salut,
semaine.
Prenez soin de vous.
À bientôt.